l'atelier de l'histoire.
L'Iran a vécu tout à l'heure, à 9h40, 7h10, heure de Paris, son moment historique. C'est à ce moment-là que l'ayatollah Khomeini, après 15 ans d'exil, est apparu sur la passerelle du Boeing 747 d'Air France, affrété spécialement. Aucun signe d'émotion ou de joie n'était perceptible sur ce visage barré en permanence par trois rides d'inquiétude. Pour ce moment tant attendu par lui et par des millions d'Iraniens, le vieux chef religieux a conservé la même impassibilité que lors des jours ordinaires.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Retour sur ce 1er février 1979, dans la marche du monde. Il y a 30 ans, vous étiez Yann Richard à Téhéran, vous avez vécu cet événement, vous êtes aujourd'hui professeur à la Sorbonne, vous êtes auteur de l'Iran, naissance d'une république islamique, paru aux éditions de La Martinière. Quels souvenirs gardez-vous de ce jour ?
C'était un jour extraordinaire. Les gens l'attendaient depuis déjà au moins 15 jours, puisqu'on avait différé le retour de Khomeini. L'aéroport n'avait pas été réouvert. Et des gens étaient venus de tout l'Iran, avaient fait leurs ablutions, parce qu'ils allaient rencontrer leur chef religieux, presque leur imam. Et il y avait une foule immense de l'aéroport jusqu'au cimetière de Téhéran, qui est à une dizaine de kilomètres au sud de la ville. Peut-être 2 millions de personnes dans les rues et une très grande densité. La voiture de Khomeini a eu beaucoup de mal à se frayer un passage au milieu de ces gens. J'étais monté moi-même sur le toit d'une des facultés de l'université de Téhéran, parce qu'on avait dit que Khomeini s'arrêterait pour faire un bref discours pour rendre hommage aux intellectuels, et c'est assez symptomatique, il ne s'est pas arrêté devant l'université. Et Khomeini est allé jusqu'au cimetière de Téhéran ensuite pour faire son grand discours d'arrivée.
Yann Richard, à ce moment-là, que représente Khomeini ? Pour les Iraniens, vous vivez en Iran au milieu des Iraniens. Le 1er février 1979, vous partagez ce moment avec les Iraniens.
Khomeini représentait tout ce que le Shah avait repoussé depuis très longtemps. Khomeini était en exil depuis 1964. Ses premières manifestations hostiles au régime du Shah étaient donc en 1963 et 64. Et Khomeini était le plus radical de ceux qui, au nom de la religion, avaient pris position contre le Shah, contre les alliances du Shah avec les Américains. Et le retour de Khomeini était quelque chose dont personne n'aurait osé parler un an avant. Un de ses ouvrages, c'était une définition de la République islamique. Et hélas, peu d'Iraniens avaient lu cet ouvrage avant le retour de Khomeini. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas anticipé ce que Khomeini véritablement voulait faire de sa victoire contre le Shah.
Notre mouvement est anti-rétrograde. Et c'est justement contre le caractère rétrograde du régime du Shah que nous luttons. C'est la propagande qui fait croire le contraire. Depuis 50 ans, dans nos communiqués, nous avons énuméré les raisons de notre opposition au régime du Shah. Depuis 50 ans, les Anglais d'abord, les Américains ensuite, ont imposé d'abord le père, ensuite le fils à ce peuple. Depuis 50 ans, nous vivons dans un régime de répression et d'oppression. Dans les écoles, on forme des sous-développés et on empêche les enfants de ce pays de s'épanouir. Toutes les libertés ont été détruites par ce régime. Le Parlement constitutionnel qui a donné la dynastie à la famille Pahlavi a été désavoué par l'ensemble du clergé et du peuple. Donc, dès le premier jour, cette dynastie était illégale. C'est pourquoi je demande son départ. Mais en ce qui concerne son destin, je ne donne pas un sentiment personnel. Ce que je veux, c'est que le Shah soit jugé selon la loi.
Et c'est pendant toute la durée de son exil, pendant 14 ans, que l'ayatollah Khomeini a appelé à inciter les religieux iraniens à la résistance contre les mesures de modernisation du Shah, et longtemps depuis la ville de Najaf, en Irak. L'Irak qui d'ailleurs l'expulse à son tour en 1978, au moment de son rapprochement avec l'Iran. Et c'est alors que Khomeini gagne la France, où il est accueilli tout près de Paris, à Neufle-le-Château, d'où il mobilise tous les médias internationaux, on vient de l'entendre, pour préparer l'avènement de la révolution islamique. Et d'ailleurs, à l'époque, il plaît beaucoup aux intellectuels français. Vous, Yann Richard, vous êtes à Téhéran, vous vivez aux côtés des Iraniens. Comment ont-ils vécu ces fameuses années Shah ?
il y a eu en Iran une modernisation par le haut, une modernisation autoritaire qui avait d'excellents aspects. La création d'un système d'enseignement, d'un système d'hygiène publique, d'un système social, la réforme agraire dans les années 1960, c'est des choses qui ont été appréciées, dont les Iraniens ont profité, comme l'industrialisation. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans la modernisation de l'Iran par les deux Pahlavi, Reza Shah et Mohammad Reza Shah, qui sont des choses extrêmement positives et qui étaient appréciées. Mais dans les deux cas, on a une modernisation manquée parce qu'elle est perçue comme étant dictée par l'étranger.
Yann Richard, est-ce que c'est seulement parce que c'est perçu comme une volonté de l'étranger ou est-ce que c'est aussi parce que c'est une réforme quand même qui va vers la laïcité ?
Une certaine dose de laïcité était tout à fait acceptable par les Iraniens, mais entourée de beaucoup de corruption d'abord, et puis accompagnée d'une répression épouvantable contre tout mouvement dissident, toute opposition politique, toute critique interne, et il n'y avait aucune représentation nationale. Ceci dit, même avec le clergé à partir des années 60, vous êtes en conflit permanent parce que le clergé s'est senti agressé et les gens qui ont osé finalement se soulever contre le Shah en 1963, ce sont des religieux dans les écoles théologiques de Rome. Et quand Khomeini a été expulsé, c'est pour avoir dénoncé des privilèges d'extraterritorialité juridique donnés au personnel militaire américain en Iran. Là, vous avez vraiment le clergé devenant le dernier rempart de l'identité et de la nationalité iranienne contre un bulldozer d'occidentalisation, de modernisation autoritaire qui fait fi de la culture nationale, de l'identité nationale et finalement des intérêts du peuple iranien lui-même. Et c'est comme ça que ça a été ressenti. Encore une fois, à tort ou à raison.
Justement, Yann Richard, vous qui avez vécu de l'intérieur cet Iran des années 70, comment vous comprenez cette répression, parce qu'il y a à la fois ce Shah d'Iran donc, qui met en place des réformes, et en même temps il y a cette police politique, la SAVAK, qui fait que même au sein des familles, écrivez-vous, on n'ose plus dire ce que l'on ressent. Vous l'avez vécu ça ? Vous avez vu vos amis iraniens ne même pas oser converser avec vous chez eux ? Comment ça se passait ? C'était quoi cette atmosphère de peur ?
C'était un couvercle de plomb. Les gens étaient terrorisés parce que quand quelqu'un était interrogé par la SAVAK, tous les moyens étaient légitimes pour la SAVAK. En réalité, ça s'est détérioré au début des années 70 quand il y a eu les premières actions spectaculaires de guérilla urbaine et même dans les provinces au nord de l'Iran à Siarkal de la part de ces groupes marxistes-léninistes ou islamo-marxistes. Et là, je pense que le a senti qu'il y avait quelque chose qui lui échappait complètement. La répression politique des partis et de l'opinion, des journaux, etc., était relativement facile à exercer sans torture et sans violence excessive. Mais à partir du moment où des généraux américains ont été assassinés dans la rue, par exemple, et où il y a eu des attentats spectaculaires, le Shah s'est vu devant la menace d'une guérilla urbaine, peut-être, et surtout en 1975, quand il a créé son parti unique, le parti du renouveau, le parti Rastakhiz. Il a resserré la répression, ça a été absolument intolérable.
Et cette répression, c'est la seule réponse du système impérial au peuple d'Iran, jusqu'à la proclamation de la loi martiale dans plusieurs villes de province, puis à Téhéran le 8 septembre 1978. Une décision justifiée par le Shah d'Iran, personne, et en français dans le texte, puisque Mohammad Reza Shah avait fait ses études en Suisse.
La seconde démonstration, c'est-à-dire il y a 9 jours, le jeudi, ça c'était alors une démonstration tout à fait différente, avec des slogans très précis.
Qui voulait dire quoi ?
Soi-disant république démocratique, renversement du régime. Et le gouvernement a vu qu'une troisième démonstration aurait pu mener à peut-être à des événements très graves. Et évidemment, après réflexion, ils ont vu que la seule façon de pouvoir sauver la situation était de proclamer la loi martiale.
Majesté, est-ce que vous avez cru à ce moment votre trône menacé pour que la troupe doive tirer sur la foule ?
C'est pas une question de tirer, c'est une question d'imposer la loi martiale. Dans chaque loi martiale, vous avez des règlements. C'est tout. Donc quand on vous dit de vous disperser, si vous ne vous dispersez pas, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Depuis le début de l'année, malgré tout, Majesté, les émeutes, les manifestations ont été nombreuses. Avez-vous, à un moment ou à un autre, pensé qu'il allait falloir prendre un virage abrupt, éventuellement démissionner ?
Pour arriver à quoi ?
Résoudre le problème.
Est-ce que ça résoudrait le problème ? Vous savez ce qui se passerait en Iran ?
Non.
Ben, réfléchissez un peu.
Si vous quittiez, par exemple, le pouvoir, vous pensez que ce serait le chaos immédiatement ?
C'est ce qu'on me dit, en tout cas.
Et c'est bien dans cette ambiance, Yann Richard, de répression avec cette police politique, la SAVAK, avec ce climat de répression généralisée, que les Iraniens ont osé descendre dans la rue, défiler, pour finalement manifester de façon quasi permanente depuis l'été 78 jusqu'au retour de Khomeini. Comment se sont passées ces manifestations ?
Au début, on a été surpris de voir des petites manifestations dans les quartiers, notamment près de l'université, où des étudiants fuyaient en courant devant la police qui les cherchait dans les maisons ou dans les ruelles. Et puis, petit à petit, les manifestations ont soulevé non pas seulement Téhéran, mais les villes de province, Tabriz, Ispahan, Mashhad, Shiraz, Kermanshah, etc. Toutes les villes de province, l'une après l'autre, se sont réveillées et l'anxiété des nouvelles qu'on avait de manière très sporadique par le bouche à oreille et puis par la BBC en persan qui a joué un rôle extrêmement important, tout cela a permis aux Iraniens de prendre conscience qu'ils étaient tous concernés. Et puis c'est dans l'été 1978, pendant le mois de Ramadan, que les religieux, après la rupture du jeûne et les prêches qui ont lieu dans les mosquées pendant l'été, donc quasiment en plein air, à la sortie des mosquées, il y a eu de grandes manifestations spontanées. Et à la fin du Ramadan, une immense manifestation qui a traversé tout Téhéran, donc ça faisait au moins 30 kilomètres de parcours, et qui a été le premier grand cortège pacifique qui a donné confiance à tout le monde. C'est-à-dire on pouvait manifester, la police n'osait pas intervenir parce que les slogans étaient surtout religieux, mais en réalité la manifestation n'était pas religieuse, elle était civique, elle était patriotique, elle était nationale, elle était politique, je dirais. Après, il y a eu la loi martiale, il y a eu des violences, etc. Mais il y avait donc la montée d'un immense mécontentement avec le départ des grandes grèves. À partir de la fin du mois de septembre, octobre 78, toutes les administrations, les usines, l'Iran est parti dans une immense grève qui était un luxe. C'est-à-dire que les Iraniens vivaient dans une certaine opulence et ils ont pu se payer une très longue grève.
La situation est catastrophique. La production pétrolière est stoppée depuis un mois, de même que les grandes industries. Les finances sont à plat, les banques n'ont plus de liquidités et la grande bourgeoisie d'affaires s'est enfuie à l'étranger sans que des mesures efficaces aient été prises pour enrayer l'hémorragie de capitaux. Pour Karim Sanjabi, le leader du Front National, qui commence pourtant à se diviser entre dur et modéré, la situation est révolutionnaire. Le régime est tellement malade qu'en poussant encore un peu, tout devrait s'écrouler. Cet avis est bien sûr celui de toute l'opposition. Mais c'est un point de vue qui est loin d'être partagé par le pouvoir, on s'en doute. Et les avertissements pleuvent de la part du gouvernement, mais aussi de la part de l'armée.
La correspondance du journaliste Yves Loiseau qui suit à l'époque cette révolution iranienne. Nous sommes à la veille du départ du Shah. Tout est bloqué. À ce moment-là, Yann Richard à Téhéran. Les Iraniens en souffrent-ils dans leur quotidien ?
Les services essentiels étaient assurés parce que tout était fait dans un esprit de solidarité nationale qui a été assez bien tenu, et le summum de cette montée en puissance du mécontentement populaire avant l'arrivée de Khomeini le 1er février, ça a été les deux grandes manifestations de décembre 78, je crois que c'était vers le 12 décembre 78, au moment de l'Ashura, où c'est une occasion religieuse aussi, donc une immense ferveur, une immense mobilisation, il y avait plus d'un million de personnes dans la rue, et au lieu d'avoir l'esprit de deuil et de flagellation qu'on a dans les manifestations normales du jour de l'Ashura, il y a eu une immense joie et c'était déjà l'esprit de la victoire. Et c'est la première fois qu'on a entendu le slogan « Mort au Shah », c'est-à-dire en fait, nous voulons la fin de ce régime et il faut enfin que la population soit écoutée. C'était peut-être un des derniers réflexes humanistes qui lui restait. Le Shah ne voulait pas que le sang soit versé. Et je pense que le débordement du Vendredi Noir lui a échappé.
Yann Richard, vous pouvez dire aujourd'hui avec le recul en tant qu'historien, les Iraniens ont chassé le Shah. Ce sont les Iraniens qui ont chassé le Shah d'Iran.
Tout à fait. Le slogan de la révolution, c'était « Indépendance, liberté, république islamique ». Et les gens voulaient véritablement la liberté, ils voulaient une république islamique dont ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient mettre dedans, mais certainement pas des choses aussi cléricales que ce qui est arrivé. Et en tout cas, ils ont voulu l'indépendance, et on peut dire que la république islamique a été enfin l'avènement d'un Iran indépendant. Et aujourd'hui encore, et d'ailleurs c'est d'ailleurs ce qui énerve les Américains dans la région aujourd'hui, l'Iran est la seule puissance qui leur échappe, qui n'a pas participé au processus d'Annapolis, qui n'entend pas le discours de la force et de la menace. Donc c'est ça que les Américains voudraient réduire. Donc qu'on le veuille ou non, cette république islamique, elle a réussi à assurer l'indépendance du pays.
Vraiment.
Pour nous, le départ du Shah n'est qu'une première étape. Il reste devant nous de nombreuses difficultés. Notre peuple doit savoir que le départ du Shah n'est pas une victoire, c'est le prélude d'une victoire. Je félicite le peuple iranien plus d'avoir obtenu l'élimination du pouvoir étranger en Iran que d'avoir obtenu le départ du Shah.
Au son des hymnes révolutionnaires et patriotiques diffusés par Radio Téhéran, la révolution triomphe en Iran. Khomeini délivre par l'intermédiaire de son conseiller son dernier message depuis la France. C'est la fin de 14 années d'exil pour le chef incontesté de l'opposition au Shah.
Au nom de Dieu, maintenant après 4 mois que je réside en France, je quitte ce pays pour servir mon pays. Et c'est nécessaire que je remercie le gouvernement et le peuple français qu'ils prenaient les mesures de sécurité et me donnaient la liberté d'expression. Le peuple, avec le sens d'humanité et l'amitié pour le peuple iranien et pour liberté et indépendance de notre pays, je vous remercie.
Lorsque le 1er février 1979, Yann Richard, vous vivez avec les Iraniens le retour de Khomeini en Iran, est-ce qu'il fait l'unanimité? Est-ce que c'est l'opposition au Shah qui l'accueille ou est-ce que ce sont les Iraniens qui l'accueillent? Est-ce qu'il fédère au-delà des politiques religieuses?
Khomeini a fédéré sur la base d'un immense malentendu. D'abord, évidemment, il y a un grand mouvement populaire vers lui, vers les religieux en général. Mais parmi les hommes politiques qui ont suivi Khomeini, on peut distinguer en gros trois catégories. Il y a d'abord ceux qui étaient véritablement convaincus de l'idéal d'une république islamique dès le départ, qui avaient une idée aussi d'instauration d'un ordre nouveau qui n'existait pas. D'autre part, il y avait des nationalistes libéraux attachés à la religion, mais pour eux la religion ne devait pas faire obstacle à la laïcité, et ce qui primait c'était la liberté, la démocratie. Et eux, ils se sont dit qu'ensuite, évidemment, Khomeini irait se retirer dans la ville sainte de Rome, à 120 km au sud de Téhéran, et donc ce sont ces libéraux qui avaient fait des études en France ou aux États-Unis qui exerceraient le pouvoir. Et puis il y a une troisième catégorie, une mouvance de gauche inspirée par le marxisme, soit marxiste-léniniste, soit marxiste-islamiste. Et ces groupes-là se sont au moins en parole, rallier Khomeini, toujours en se disant que de toute façon, il était évident que ce n'était pas un ayatollah qui allait exercer le pouvoir. C'est évidemment l'avant-garde éclairée qui emporterait la véritable révolution contre l'impérialisme américain et pour un ordre social socialiste.
Le Conseil révolutionnaire qui sera prochainement formé aura pour objectif d'installer un gouvernement provisoire et de créer une chambre pour réviser les lois constitutionnelles. Ayatollah, souhaitez-vous ou non la poursuite des alliances actuelles de l'Iran avec les puissances étrangères, ou à l'inverse, souhaitez-vous un renversement des alliances, une politique étrangère différente? Nous ne souhaitons pas couper nos relations avec tous les autres pays. Nos liens seront seulement révisés. Les liens qui vont à l'encontre de l'intérêt national, tels par exemple les relations qui avaient été établies par le Shah avec les États-Unis, seront bien sûr coupées. Ayatollah, quelle attitude attendez-vous de la part de l'armée iranienne? Je souhaite que l'armée rejoigne les rangs du peuple et participe au gouvernement islamique.
Yann Richard, est-ce que le retour de Khomeini en Iran a été suivi d'une espèce d'état de grâce? Bon, on sortait d'une longue grève, la presse s'est remise à fonctionner par exemple. Est-ce qu'il y a eu une espèce de sentiment de liberté qui a accompagné ce retour de Khomeini à Téhéran? Vous y étiez?
Oui. Ce sentiment, il a même précédé le retour de Khomeini. Disons qu'à partir du moment où Bakhtiar est venu au pouvoir, la presse a commencé à reparaître. Bakhtiar lui-même est un homme qui s'était battu pour la liberté pendant des années avec le Front National, avec Bazargan, avec beaucoup de gens qui ont participé à la République islamique. Donc finalement, le dernier premier ministre du Shah était sur beaucoup de points en phase et complètement en accord avec les idéaux des gens qui ont milité pour la République islamique. Il y avait une presse extrêmement variée, très libre, de toutes les tendances. Au début, les gens croyaient que n'importe quel parti, qu'il soit même marxiste ou nationaliste, libéral, laïque, je ne sais quoi, pouvait participer à toutes les élections. On a vite déchanté. Mais, disons, il y a eu l'illusion que cette liberté à laquelle on aspirait tant était venue.
Revenons sur le retour de Khomeini en Iran, aujourd'hui dans la Marche du Monde avec vous, Yann Richard. Et c'est ensuite le 1er avril en Iran, à Téhéran, qu'un référendum plébiscite la définition du nouveau régime comme république islamique. Et déjà, le pouvoir grandissant des mollahs s'accompagne du début de la censure pour la presse. D'autres censures suivront, notamment celle de la musique. Et c'est Mehdi Barzagan qui est nommé par Khomeini pour mettre en place cette nouvelle politique. Mais le 4 novembre 1979... des étudiants qui se définissent comme étudiants musulmans qui suivent la ligne de l'imam prennent 50 otages à l'ambassade américaine de Téhéran. Khomeini approuve cet acte de violence spectaculaire. Qu'est-ce que ça nous dit sur ses intentions, sur les intentions de Khomeini évidemment à l'égard des États-Unis, mais aussi en ce qui concerne sa vision de l'Iran?
Le premier ministre de la République islamique, Mehdi Bazargan, n'était pas révolutionnaire et il était pro-américain assez ouvertement. Donc finalement, les gens qui avaient milité à fond pour l'indépendance dans le mouvement révolutionnaire, ils étaient frustrés de leur victoire. Et ils pouvaient se demander si les Américains ne cherchaient pas à détourner ce qu'ils avaient créé avec la République islamique pour en faire une sorte d'État satellite, un peu comme l'Égypte ou la Jordanie, etc. Avec la prise d'otage, le cordon ombilical est vraiment rompu et la situation est claire. C'est la véritable révolution sur le plan international. C'est-à-dire qu'on coupe le lien qu'il y ait la puissance impérialiste à son satellite, et du coup, même si c'est violent et si c'est inacceptable sur le plan des lois internationales, le soutien de Khomeini à cette action, c'est en réalité pour aller jusqu'au bout d'une action révolutionnaire qui aurait été complètement atrophiée et qui n'aurait jamais pu donner la République islamique que nous connaissons aujourd'hui.
Merci Yann Richard. Je rappelle votre livre de référence, L'Iran, naissance d'une république islamique, aux éditions de La Martinière. On peut également vous lire dans ce numéro spécial des collections de l'histoire intitulé De la Perse à l'Iran.
sakotal, poin kotal, vaido darur dudiore. Aina igol, golna igol, vaido darumadi, mamor do ay gol golaf shun kard raft maro pari shun kard raft jay degar oshena sho جای ما ول کرد و گذاشت را.
Le retour de l'Ayatollah Khomeini, c'était une marche du monde réalisée par Isabelle Godino, mixée par Cyril Etienne avec les archives de RFI.
بیپریم شاه چراغ شاه چراغ عتی ببندیم عتی ببندیم هر کدوم عت بشکنیم عت بشکنیم.
Et c'est avec plaisir que toute l'équipe vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans l'atelier de l'histoire avec Likiam Bokolo pour le deuxième volet consacré aux aborigènes d'Australie, un peuple debout. Et pour la marche du monde, ce sera une émission dédiée aux soldats coloniaux de la première et de la seconde guerre mondiale. Et dans quelques instants, d'autres nouvelles du monde sur RFI.
Tirat buri deshasum.